Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Oui, Jean-Marie Bigard est bien intéressé par une candidature en 2022. Un article du magazine Society laissait penser le contraire, mais son entourage a très vite démenti. À 66 ans, l'humoriste envisage sérieusement de bousculer la prochaine présidentielle. Deux journalistes du Parisien l'ont rencontré chez lui à Paris au mois de juin. L'humoriste leur a semblé particulièrement sincère.
La grande surface se gave. Celui qui gagne le moins, c'est celui qui a fabriqué le melon.
Pauline Conradson, vous êtes journaliste au service loisirs du Parisien, vous, Alexandre Sulzer, au service politique. Le mercredi 10 juin, Jean-Marie Bigard vous reçoit chez lui, dans son appartement parisien.
C'est un très grand appartement situé dans le 6e arrondissement de Paris, à deux pas du Bon Marché. Un appartement lumineux, avec de hauts plafonds, du parquet, des moulures, très bel appartement haussmannien. C'est le bazar dans cet appartement aussi, on peut dire qu'il y a des jouets qui traînent, parce que Jean-Marie Bigard a des jumeaux qui ont 7 ans. Et quand on arrive dans le salon, il y a une table encombrée également. Au mur, il y a beaucoup de photos de lui, de sa femme. Une armoire à apéritifs très fournie et une carte de France avec toutes les dates et toutes les villes où il va partir en tournée.
Alexandre Sulzer, il est comment quand il vous reçoit ?
Il nous accueille dans son salon autour d'une très grande table sur laquelle sont posées trois bouteilles de pastis bleu, blanc et rouge, ainsi qu'un gros pot de rillettes au pastis. Il a un t-shirt noir avec écrit « Allez tous vous faire enculer ». Et en fait, c'est un t-shirt qu'il porte sur toutes ses vidéos depuis des mois, qui est son message principal en fait, ce qu'il répète à longueur de journée. Il nous reçoit vers 15h, il vient de faire une sieste, parce qu'il fait des siestes tous les jours, il est un petit peu endormi, mais il est chaleureux, content de nous recevoir.
Qu'est-ce qu'on peut vous offrir ? Un café, de l'eau,
café,
un coca ?
Un
café,
ouais.
Deux cafés, ça, personne, toi aussi,
ouais.
Court, long.
Il a commencé à boire un petit vin rouge, qu'il se resservira d'ailleurs pendant notre entretien. C'est un vin à son nom, un vin rouge Bigard. Lors de l'entretien, progressivement, il va commencer à prendre de la voix, à s'énerver. C'est un personnage très entier, beaucoup plus sérieux en tout cas que peut-être l'image qu'il donne sur scène.
On parle beaucoup de lui ces dernières semaines. Certains voient en Jean-Marie Bigard un éventuel candidat anti-système à la présidentielle de 2022.
Tout le monde, les observateurs, parlent beaucoup de l'apparition potentielle d'ici 2022 d'une figure hors système. Une figure hors système, comme on a pu le voir, arrive en Italie avec Beppe Grillo, le fondateur du mouvement 5 étoiles. On l'a vu dans d'autres pays, comme en Ukraine aussi, où le Premier ministre est un ancien comique. Beaucoup d'observateurs se posent la question si une telle figure peut émerger en France. Or, il se trouve que Jean-Marie Bigard pourrait avoir ce profil-là, d'autant qu'il se dit désormais un petit peu intéressé par la politique. Il fait des vidéos de plus en plus où il donne ses points de vue à la fois sur les gilets jaunes, sur le coronavirus, des questions finalement d'affaires publiques, de politique. Et de fait, même s'il prétend ne pas s'intéresser à la politique, il devient un objet politique.
On va revenir sur son parcours pour essayer de comprendre ses derniers rebondissements. Pauline Conradson, Jean-Marie Bigard, né le 17 mai 1954 dans la banlieue de Troyes. Dans quelle famille est-ce qu'il grandit ?
Son père est charcutier et sa mère travaille à l'usine. Et très tôt, il voit trimer ses parents. Il en parle beaucoup, souvent. Et lui, il n'a pas du tout envie de cette vie-là. Très tôt, il dit « moi, je n'irai pas à l'usine ». Et très tôt aussi, il prend conscience des inégalités sociales.
À 20 ans, il perd justement ses deux parents, l'un après l'autre, dans des conditions tragiques.
Sa mère décède d'un cancer du pancréas, très brutal. Et l'année suivante, son père est assassiné sauvagement, par coup de couteau, par l'ancien compagnon de sa nouvelle compagne, sa nouvelle femme. C'est des événements traumatisants pour lui, pour ses frères. Il est le dernier d'une fratrie de 4 enfants. Et la famille va perdre contact pendant quelques années suite à ces deux événements traumatisants.
C'est un moment très dur pour lui.
Oui, il fait une dépression à ce moment-là et se coupe complètement de sa famille.
Dans ses jeunes années, il enchaîne les petits boulots.
Il a été barman, prof de gym, gérant de boîte de nuit. Il a aussi fait du handball à un très haut niveau. Mais c'est vraiment en tant que barman qu'il découvrira ce talent de comédien. C'est le barman très sympa, qui parle avec tout le monde, grande gueule, et surtout qui sait raconter les blagues comme personne.
Au début des années 1980, il monte à Paris. Son rêve, c'est de faire de l'humour.
Oui, son rêve, c'est d'intégrer le petit théâtre de Bouvard. Donc il y va avec son ami Tex, avec qui il joue déjà dans des petits cafés-théâtres de Troyes. Et il propose plusieurs sketchs à Philippe Bouvard.
Il y a déjà ma tante qui en a une mince qui tombe en croissant de lune. Il s'agit bien sûr de la moustache et nos ancêtres les Gaulois.
Ça marche pas très bien. Philippe Bouvard n'aime pas les sketchs de Jean-Marie Bigard. Donc il essaye plusieurs fois, il s'y reprend vraiment à de nombreuses reprises, mais ça ne marche pas et même Philippe Bouvard tente de le dissuader de faire du théâtre.
Qu'est-ce qu'il fait ensuite ?
En 1987, il est finalement repéré dans La Classe, une émission présentée par Fabrice sur FR3 à l'époque.
On peut se méfier avec ça. Par exemple, tu te pointes au resto avec quelques pains, t'arrives, déjà le garçon il vient vous accueillir, il dit « c'est pour dîner ?» Il dit « non, c'est pour faire un tennis, connard !»
Et c'est là qu'il fera la rencontre déterminante de son grand ami Laurent Baffy, avec qui il écrira beaucoup de spectacles par la suite.
En 1988, il connaît un début de succès avec son spectacle « Vous avez dit Bigard ». Dans les années 1990, sa popularité grandit. C'est un humour qui ne plaît pas à tout le monde.
Jean-Marie Bigard, il divise dès le début.
Pourquoi est-ce qu'on ne montrerait pas l'homme chasseur ? Tu sais, quand on remplace le gibier par le beau sexe. Voilà, ça c'est fait, je vous l'ai dit. Voilà, vous êtes prêts maintenant ?
C'est un humour très vulgaire, grossier. Il parle de fêtes entre potes, de coups à boire, d'alcool, de cuites, de femmes, avec un vocabulaire très fleuri.
Je suis allé en boîte hier, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage, dis donc.
Il a un humour aussi très scatologique.
Tout d'un coup, j'en vois une dans le fond. Pas terrible, hein ? D'ailleurs, à mon avis, elle avait déjà dû se faire tirer parce que elle avait le poil tout collé et elle boitait de l'arrière, hein, bon.
Il assume tout ça.
Ah, il assume complètement. Soit on le déteste, soit on adore. Les gens qui l'adorent aiment aussi son style très direct, très simple en fait. Ils ont l'impression que c'est quelqu'un comme eux qui leur parle.
La simplicité amenait les questions posées par les journalistes. Vous êtes devenu drôle quand ? Quand je suis sorti de la touffe de ma mère. Parce que je savais, j'entendais déjà, je savais que j'étais le quatrième enfant. Hein, je savais que j'étais une bouche de plus à nourrir. Je savais que ce serait pas facile. Donc je suis arrivé en smoking. Et j'ai fait, et hop ! Et surtout, ce que j'ai dit, c'est gardez-moi. Vous allez voir, je suis drôle. Ne me jetez pas. Eh bien, c'est resté une question de survie pour l'adulte de 66 ans que je suis. Si je ne fais pas rire les gens, je meurs. Donc, je transforme la merde en Nutella.
Le 28 décembre 2001, il est le tout premier humoriste à remplir la salle de Paris-Bercy.
Ce soir-là, Jean-Marie Bigard joue devant 70 000 personnes parce que son spectacle est retransmis dans 300 salles des fêtes. Ça a des allures de finale de Coupe du Monde, un petit peu, cet événement.
En 2004, Jean-Marie Bigard est au sommet de sa carrière.
Cette année-là, il est nommé comique humoriste préféré des Français. Et surtout, en juin, il est sur la scène du Stade de France, devant 52 000 spectateurs, et aucun humoriste ne l'a jamais fait avant lui. Au total, il vendra 8 millions de DVD.
Alexandre Sulzer, dans les années qui suivent, il ne va pas cacher qu'il apprécie le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, et il va s'engager pour lui dans la campagne présidentielle de 2007.
Oui, en fait, dans la campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy a une stratégie où il s'entoure de beaucoup d'artistes et le sénateur Pierre Charon est chargé de ramener Nicolas Sarkozy le plus de people possible pour le soutenir. Il se trouve que la mère de Pierre Charon vient du même village que la mère de Laurent Baffy dans le Loir-et-Cher, ce qui lui fait se rapprocher de Laurent Baffy et de Bigard. Quand il est ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy reçoit plusieurs fois Jean-Marie Bigard, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, ils font des dîners, ils créent un lien personnel, qui va aller jusqu'à un soutien très actif lors de la campagne présidentielle. Jean-Marie Bigard participera à un meeting, notamment, où il sera publiquement à ses côtés.
Monsieur Bayrou, sortez du cours central, une prochaine fois peut-être.
En 2007, Nicolas Sarkozy est élu et la même année, il accorde une grande faveur à l'humoriste.
Effectivement, Jean-Marie Bigard est catholique et Nicolas Sarkozy veut lui faire un cadeau. Il lui propose de l'emmener dans ses bagages lors d'un voyage officiel au Vatican.
Juste avant de partir avec Nicolas Sarkozy à Rome, une amie proche nous a raconté qu'il avait payé la tournée générale dans le bar juste en face du point virgule et qu'il était excité comme un gamin à l'idée d'aller voir le pape et qu'il en parlait à tout le monde, absolument à tout le monde.
Alexandre Sulzer.
Et voilà Jean-Marie Bigard dans l'avion présidentiel, dans la délégation officielle même de la République française qui va rendre visite au Saint-Père. Jean-Marie Bigard au milieu des conseillers un peu gris et très sérieux de Nicolas Sarkozy. Il va même jusqu'à se faire prendre en photo lorsqu'il rencontre le Saint-Père, donc le roi de l'humour scatologique et le pape Benoît XVI.
Dieu est amour. Ce n'est pas toi le propriétaire de l'amour, c'est Dieu. Mais il te donne la possibilité d'en distribuer autant que tu veux. Nous sommes milliardaires d'amour.
Pauline Conradson, il est très pratiquant, Jean-Marie Bigard ?
Jean-Marie Bigard, il prie plusieurs fois par jour et il voit des messages divins dans à peu près tout ce qui lui arrive sur Terre. Le décès de ses parents, notamment, pour lui, ce sont des obstacles qui ont été mis sur son parcours pour le faire quitter Troyes et monter à Paris. Lui, il en parle vraiment comme ça.
C'est quelqu'un de généreux ?
Il est extrêmement généreux. Il a financé l'ouverture d'une maternité au Burkina Faso. Il a payé le traitement du cancer du neveu de sa gardienne. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il égrène ça comme un tableau de chasse. C'est-à-dire qu'il a vraiment une liste de toutes ses bonnes actions. Dès qu'il peut, il fait des chèques. D'ailleurs, son frère nous racontait que c'était un sujet de discorde entre eux, parce que souvent, Jean-Marie Bigard voulait distribuer de l'argent pour des causes qui lui tenaient à cœur.
Alexandre Sulzer.
Jean-Marie Bigard dit aussi qu'il a été interpellé par des habitants de Guingamp sur la fermeture de la maternité de Guingamp, et il a pris fait et cause contre la fermeture de cette maternité. Il a dit, et ça a été son premier contact avec les Macron, qu'il a eu Brigitte Macron au téléphone là-dessus, et que c'est notamment grâce à son intervention que la fermeture de la maternité n'a pas eu lieu. On a vérifié effectivement auprès du cabinet de Brigitte Macron, et l'histoire est vraie. Même si le cabinet nuance en disant que c'est pas que grâce à Jean-Marie Bigard, en tout cas, il y a bien eu des échanges entre lui et la présidence de la République.
À partir de 2018, il va s'investir dans le mouvement des Gilets jaunes.
Il n'a pas enfilé lui-même le Gilet jaune, mais ce qu'il fait, c'est qu'il va les rencontrer sur les ronds-points. Il y va en voiture, il ouvre son coffre, il sort, comme il a l'habitude, sa bouteille de rouge, et il discute avec eux. Il les rencontre également avant ou après ses spectacles. Ce qui est sûr, c'est qu'il a énormément d'empathie pour ce mouvement qui représente, selon lui, le peuple, un mot qui revient sans cesse dans ses vidéos. Il est apprécié, évidemment, par ce public. Et comme il est apprécié, il ressent cet amour et il le rend d'une certaine façon.
Tu veux nous faire une dernière blague à mon coup ?
Bah oui, mais elle est terrible. Hein. Tout le monde va se faire virer.
Le 11 février 2019, Pauline Conradson, Jean-Marie Bigard est invité dans l'émission de Cyril Hanouna. Touche pas à mon poste.
Ce jour-là, Jean-Marie Bigard fait une de ses blagues dont il a le secret. Il raconte une blague qui s'appelle « La déchirure ».
Une bonne femme qui exaspère son médecin, elle vient tout le temps, et elle vient une fois de trop, en disant à son médecin, je viens vous voir parce que j'ai une déchirure. Le médecin dit, déshabillez-vous.
Où il narre le viol d'une patiente par son médecin. Donc cette blague, lui-même dira qu'il l'a fait depuis 30 ans. Mais ce jour-là, ça ne passe pas, même Cyril Hanouna ne cautionne pas. Et surtout, elle lui vaudra 1500 saisines du CSA.
On ne cautionne pas du tout cette blague, voilà, je voulais dire. On ne cautionne pas du tout.
Alors, il y aura de grosses conséquences à cette blague. Sa tournée prévue pour tout l'été dans le sud de la France va être annulée.
Vous l'avez dit, ça fait 30 ans qu'il faisait cette blague régulièrement. Comment est-ce qu'il réagit après cet épisode ?
Bah, il est extrêmement vexé et il en veut un peu à ce milieu culturel qui le rejette de plus en plus.
Si on a encore le droit de rire, même du pire, on est sauvé. Sinon, on est perdu.
Après cette mauvaise blague, il va aussi se fâcher avec certains amis.
Muriel Robin, notamment, que lui décrit comme une amie, mais elle dira que non, ils ne sont pas si proches que ça. Muriel Robin, qui voudra qu'il soit blacklisté et qu'il arrête d'être invité sur les plateaux de télévision.
Il devient finalement un peu un symbole d'une France immuable. En fait, Jean-Marie Bigard, effectivement, il fait les mêmes blagues depuis 30 ans. Lui, il n'a pas changé, mais le monde, lui, a changé. Et lui, il s'en est pas rendu compte. Donc, effectivement, les consciences ont évolué. C'est aussi pour ça qu'il est apprécié par une certaine droite conservatrice, voire réactionnaire, qui en fait un symbole un petit peu de ses valeurs, alors même que lui, à la base, n'est pas très idéologique comme garçon.
En octobre 2019, Jean-Marie Bigard apporte son soutien à un candidat à la mairie de Paris.
Il fait plus qu'apporter son soutien, il est même candidat sur ses listes. Il est deuxième sur la liste de ce candidat dans le 6e arrondissement de Paris. Et ce candidat, c'est Marcel Campion, le roi des forains, qui est en guerre ouverte contre Anne Hidalgo, qui vise surtout à régler ses comptes avec Anne Hidalgo, qui lui a refusé des emplacements. Et il se veut un petit peu le porte-parole, Marcel Campion, des artisans, là aussi contre l'élite politique, avec des accents qu'on retrouve également chez les Gilets jaunes et dans les sketchs de Jean-Marie Bigard.
Le 6 février, il accorde une longue interview au magazine Valeurs Actuelles.
J'essaye de faire abroger la loi PLM, la loi Paris-Lyon-Marseille, qui exclut le peuple du vote, quoi. Et je vais être un gros caillou dans sa chaussure.
Il est sollicité par Valeurs Actuelles parce que par son positionnement du Gaulois, franchouillard, qui aime bien rigoler de tout, de faire des blagues misogynes, il est devenu, malgré lui au début, mais maintenant il l'assume, ce symbole de la France, comme je disais, une France réactionnaire, un petit peu d'une France d'avant qui n'avait pas de tabou. Et comme c'est un peu le créneau, beaucoup plus politique, mais c'est le créneau de Valeurs Actuelles, il devient un peu une icône pour toute cette frange conservatrice qui en fait un symbole et presque un martyr d'une certaine forme de conformisme, de bien-pensance de gauche.
Il faut une révolution. Mais, tu vois, un lance-pierre, un beau lance-pierre fabriqué comme à l'époque, quand tu avais 14 ans,
qu'est-ce qu'il dit en résumé dans cette interview ?
En résumé, il dit que effectivement, on ne peut plus rien dire, que la sphère culturelle est prisonnière d'une gauche bien pensante. Dans l'interview et ensuite sur les réseaux sociaux, il décline cette thématique vraiment du peuple contre le système.
On en arrive au tout dernier développement de l'histoire de Jean-Marie Bigard. Le 26 mars, quelques jours après le début du confinement, il interpelle le président Emmanuel Macron dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.
Message au président de la République, Emmanuel Macron.
Un coup de gueule, comme n'importe quel Français pourrait le faire. Et là, il interpelle Emmanuel Macron en regrettant le manque de masques, le manque de tests, enfin l'impréparation du gouvernement face au coronavirus.
Il va publier régulièrement des messages sur sa page Facebook pendant le confinement.
Oui, il en publie plusieurs fois par jour. Il prend fait et cause, notamment beaucoup pour le professeur Raoult, comme beaucoup de Français. Là encore, en disant, c'est lui qui dit la vérité, le gouvernement étouffe la vérité. Il pense que l'hydroxychloroquine est la solution, mais que les lobbies de pharmacie, le Big Pharma, comme il l'appelle, pour des raisons financières, empêchent l'exploitation de cette molécule. Il retrouve en fait ses accents complotistes.
Par le passé, il a déjà relayé des thèses complotistes.
Oui, en 2008, il avait eu une expression complotiste sur le 11 septembre, reprenant des thèses qui foisonnent sur le web avec un scénario caché.
Sûr et certain maintenant que les deux avions, celui qui s'est écrasé soi-disant dans la forêt et Pentagone, n'existent pas. Il n'y a jamais eu d'avion, ces deux avions volent encore, c'est un mensonge absolument énorme, quoi.
Ce ne serait pas ce qu'on nous dit, on nous cacherait des choses. Et c'est vraiment quelque chose en quel il croit, parce que l'un de ses amis nous a dit d'ailleurs avoir rompu avec lui, parce qu'il lui envoyait tout le temps des vidéos sur son téléphone qui relayaient ses thèses complotistes. Donc c'est quelque chose qu'il a chevillé au corps, même si, publiquement d'ailleurs, il a exprimé des regrets à propos de ses vidéos.
Je ramène ma gueule. Je chie sur le président et le président m'appelle.
Le 19 mai, l'humoriste révèle sur Sud Radio qu'il a reçu un coup de téléphone du président.
Est-ce que c'est vrai qu'il t'a appelé? Vraiment, il t'a appelé?
Oui, bien sûr, oui, tout à fait.
Il t'a appelé,
c'est un scoop, mais c'est vrai, il m'a appelé, il m'a dit oui, vous avez raison, nous allons faire un putain d'échéancier, m'a-t-il dit, comme j'avais demandé, donc c'était assez mignon, quoi.
Que dit l'Élysée sur ce coup de fil?
L'Élysée n'a pas voulu commenter publiquement, mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça intervient dans une séquence où Emmanuel Macron a énormément appelé des figures que beaucoup d'observateurs pensent pouvoir être des concurrents potentiels, que sont à la fois Éric Zemmour, Philippe de Villiers. Et c'est pour le président de la République une façon de communiquer avec cette frange de la population, d'envoyer des messages à toute une partie de la population au sein de laquelle il est extrêmement impopulaire.
Quelques jours plus tard, Jean-Marie Bigard est invité sur BFM TV.
Pour revenir sur ce fameux coup de fil présidentiel, et la question lui est posée par le journaliste de BFM TV, est-ce que vous pourriez être candidat à l'élection présidentielle? Et Jean-Marie Bigard dit que c'est une possibilité, qu'il y réfléchit. Il ne répond pas formellement oui ni non, mais il confirme qu'il réfléchit à cela.
Ça pourrait m'intéresser si je sentais l'utilité d'avoir quelqu'un de sincère qui représente réellement le peuple.
Alexandre Sulzer, vous, et avec vos collègues du service politique, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là?
On est évidemment dubitatif. S'agit-il d'une nouvelle blague de Jean-Marie Bigard, à des fins peut-être même un peu promotionnelles pour ses spectacles, ou est-ce que ce serait lui, cette fameuse figure hors système dont le microcosme parle depuis des semaines? Le débat n'est pas tranché.
Pauline Conradson, en préparant votre portrait, vous avez contacté des proches de Jean-Marie Bigard. Qu'est-ce qu'ils disent de ça, Jean-Marie Bigard, potentiel candidat à la présidentielle?
Son ami Claude Lelouch, lui, semble y croire. En tout cas, il dit, si Trump l'a fait aux États-Unis, pourquoi pas Bigard en France?
On en revient au début de cet épisode, quand vous le rencontrez tous les deux dans son appartement du 6e arrondissement, le mercredi 10 juin. Qu'est-ce qu'il vous dit de sa possible candidature?
Il entretient une ambiguïté, clairement. Il souffle le chaud et le froid à ce sujet. Et son expression, c'est de dire qu'il laisse chauffer la cocotte minute. Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que lui est assez habité par ses convictions, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Quand on l'a rencontré, il était totalement en surchauffe quand il nous parlait, quand il parle de pauvreté, quand il parle de pouvoir d'achat.
Il y a un paysan par jour qui se suicide. La grande surface se gave. Celui qui gagne le moins, c'est celui qui a fabriqué le melon. On le paye même pas le prix de l'eau qu'il a utilisée pour faire pousser le melon.
Des sujets qui le tiennent à cœur, même des gilets jaunes et même du coronavirus. Il devient tout rouge, sa voix monte et il finit par exploser littéralement. Il tape du poing sur la table.
Big Pharma, c'est les 10 plus gros laboratoires de la planète. 489 milliards de dollars, c'est le dernier chiffre du mois d'avril. Et eux, ce qu'ils veulent, sûrement pas soigner les gens, hein. Ils en ont rien à branler de soigner les gens, eux. Ce qu'ils veulent, c'est faire 10 milliards de plus. Donc quand tout d'un coup, il y a un professeur marseillais qui dit « Moi, j'arrive à soigner les gens avec un médicament qui a 70 ans et qui coûte pas une thune !» Disent « Oh, t'es fou, toi, ou quoi? Tu veux nous tuer? Mais tu sais à qui tu t'attaques ?»
Et il lui arrive même de pleurer, d'être très ému, d'avoir la voix qui se brise. Il est complètement dans son personnage.
Vous vous dites quoi à ce moment-là? Vous êtes tous les deux... journaliste au Parisien, vous vous interrogez Jean-Marie Bigard qui se met à pleurer devant vous. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous regardez?
On ne s'est pas trop regardé parce qu'on voulait laisser quand même Jean-Marie Bigard s'exprimer le plus sincèrement possible. Hein. Laisser le personnage s'exprimer pour pouvoir essayer de ressentir ce qu'il a au fond des tripes.
On le sent sincère. On sait que c'est des causes, quand on connaît sa vie, qui le touchent depuis sa plus tendre enfance. Mais il est vraiment écorché. Il est à vif en permanence, Jean-Marie Bigard.
Il y a des mecs qui se disent, mais pour qui ils se font l'auteur du lâcher de salope et va se présenter à la présidentielle. Il est où le mec qui me concurrence? Ils se sont tous démasqués dans leurs mensonges et dans leurs conneries. Tous, semaine après semaine.
Moi, quand je rentre chez Jean-Marie Bigard, j'ai un avis personnel qui est que c'est une grosse part de comédie chez lui quand il dit ça.
Moi, ça fait 35 ans que je suis très très connu, que je suis très très aimé. Pourquoi je leur ferais pas un peu peur? Pourquoi j'irais pas avec des idées simples faire peur à toute cette bande d'enculés qui trompent les gens, qui les pillent et qui sucent les pauvres pour lécher le cul aux riches.
Et en ressortant de son appartement, je suis un peu ébranlé dans cette conviction parce qu'il est tellement habité par ce qu'il dit qu'on a l'impression que, voilà, vraiment, en tout cas quand il pousse un coup de gueule, c'est sincère.
Merci à Pauline Conradson et Alexandre Sulzer. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert, production Stéphane Geneste et John Timsit, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement codesource@leparisien.fr.